Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Quand David et ses hommes, David fugitif, poursuivi par le roi Saül qui a de la haine pour lui, après l'avoir beaucoup apprécié parce qu'il en est jaloux, et donc le prêtre Ahimélec donne les pains consacrés au prêtre pour les donner à David affamé et à ses hommes. Et David donne une raison. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache la mission dont on se charge et lorsque je te donne. Alors c'est pas vrai, le roi ne vient jamais de donner cet ordre-là. Donc c'est une sorte de péché de David, qui excusa peut-être dans la mesure où il mourait de faim, mais ça a quand même été une faiblesse grave par les conséquences que ça allait avoir. Oui, faiblesse grave, car la conséquence, chers auditeurs de Radio Présence, la conséquence en sera la mort du prêtre et de toute sa famille. En effet, un homme de l'entourage de Saül avait été témoin de la scène qui se passait à Nob, où résidait le prêtre. Et quand le roi se plaint au milieu de ses officiers de les voir conspirer contre lui, c'est au chapitre 22 du premier, le premier livre de Samuel, « Personne, dit Saül, ne m'avertit quand mon fils pactise avec le fils de Jessé. » C'est l'amitié entre David et Jonathan. « Et personne de vous n'a pitié de moi et ne me révèle que mon fils a dressé mon serviteur en ennemi contre moi, comme il apparaît aujourd'hui. » C'est alors que Doeg l'Édomite prit la parole, un homme de l'entourage de Saül. « J'ai vu le fils de Jessé qui venait à Nob, chez Ahimélec, fils d'Ahitoub. Celui-ci a consulté le Seigneur pour lui, il lui a donné des vivres, il lui a remis aussi l'épée de Goliath, le Philistin. » Vous savez, Goliath, le Philistin, que David avait terrassé par une fronde et quelques petites pierres venues du torrent. Le prêtre a rendu tous ses services à David pour l'aider dans sa prétendue mission. Saül convoque donc Ahimélec et tous les siens et porte l'accusation de haute trahison. Ahimélec fait sa propre plaidoirie, et qui donc, parmi tous les serviteurs, est comparable à David, le fidèle, le gendre du roi, le chef de ta garde personnelle, celui qu'on honore dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé de consulter Dieu pour lui? Loin de moi toute autre pensée, que le roi n'impute à son serviteur et à toute sa famille aucune charge, car ton serviteur ne savait rien de tout cela, ni peu, ni prou. Comment, en effet, le prêtre se serait-il méfié du héros national? Et l'épée de Goliath était donc gardée chez lui. Il faut relever le premier qualificatif décerné à David par le prêtre, en parlant de « le fidèle ». David, le fidèle. Le Seigneur ne cessera, Dieu ne cessera de redire à son attachement profond à cet homme au cœur droit. Mais dans le peuple aussi, tous l'aiment, comme le reconnaît Saül lui-même en grinçant des dents dans ces moments de vérité. Et tous l'aiment et chantent sa droiture et sa fidélité, et cette droiture et fidélité que nous allons continuer de montrer dans tous les épisodes de ces livres de Samuel que nous commentons. Mais il faut bien avouer que là, le fidèle s'est rendu coupable envers Ahimélec et la famille d'un mensonge qui va leur coûter la vie. Saül n'accorde aucune attention à la poignante plaidoirie du prêtre innocent et se contente de rendre son verdict sans appel. « Tu mourras, Ahimélec, toi et toute ta famille. » Exécution immédiate. Cependant, les gardes du roi ne veulent pas porter les mains sur les prêtres du Seigneur par respect et esprit de foi. Saül doit charger son espion Doeg, qui n'est pas israélite, de ce massacre injuste. 85 hommes portant le pagne de lin y passent et Nob, leur ville, est rasée. Vous voyez la conséquence du mensonge de David. Il n'échappa qu'un fils d'Ahimélec, fils d'Ahitoub, il se nommait Ébiatar, et il s'enfuit auprès de David. Ébiatar annonça à David que Saül avait massacré les prêtres du Seigneur, et David lui dit « Je savais ce jour-là que Doeg, l'Édomite, étant présent, avertirait sûrement Saül. C'est moi qui suis responsable de la vie de tous tes parents. David avait donc eu conscience des conséquences que son mensonge pourrait avoir. Et il reconnaît qu'il est coupable, bien qu'il n'ait aucunement voulu directement la mort des près de Nob, bien sûr. Et malgré la gravité de cette faiblesse, la droiture de David apparaît dans la reconnaissance de cette faute. Il se dit responsable de la mort de la famille d'Ébiatar et, en réparation, il s'attache le rescapé du massacre dont il fait son prêtre, ce qu'il restera jusqu'à la mort de David. Et celui-ci a pour lui des paroles pleines de cœur. « Demeure avec moi, sois sans crainte. C'est le même qui en voudra à ma vie et qui en voudra à la tienne, car tu es sous ma bonne garde. » Il n'est donc jamais légitime, frères et sœurs, de mentir sciemment, c'est-à-dire de vouloir dire ce qui est faux pour tromper l'autre ou les autres. Tout mensonge volontaire est un péché. Il peut être grave en lui-même quand, par exemple, on calomnie son prochain, ou dans ses conséquences, comme dans l'épisode de la vie de David que nous venons de rapporter. Mais il y a aussi des mensonges qui sont des péchés légers. La tradition parle en effet de mensonges joyeux ou de mensonges d'utilité. Les mensonges joyeux, entre guillemets bien sûr, recouvrent ces exagérations ou ces embellissements de la vérité par lesquels nous nous donnons le beau rôle à la façon de Tartarin et de Tarascon. Enjoliver la vérité est une faute, même si elle est légère, et il faut prendre garde à ce qu'elle ne dégénère pas en fabulation dont nous deviendrions la première victime, avec cette conséquence que les autres en arriveraient à ne plus jamais nous croire. Il existe aussi des mensonges qu'on fait par plaisanterie, selon la manière bien française, d'exprimer ce que l'on veut dire par le contraire, par antiphrase comme on dit. Mais comme ces façons plaisantes de s'exprimer ne visent pas à tromper, il ne s'agit pas de mensonges proprement dit, et l'humour ou la plaisanterie ne sont, grâce à Dieu, ne sont pas des péchés.